Entreprendre est dans l'air du temps, prendre soin des autres, de la planète et de son territoire l'est tout autant. Je suis Géraldine Tressard et dans mon parcours de productrice de vidéos corporate, j'ai été amenée à couvrir des interviews pour le concours régional de l'entrepreneuriat par les femmes en Centre-Val de Loire. C'est à cette occasion qu'une femme un jour m'a raconté la célèbre légende du colibri. Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Mais colibri, t'es pas fou, c'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Nous vous proposons dans ce podcast de partir à la rencontre d'entrepreneurs qui ont décidé de suivre le colibri et de faire leur part. Nous découvrirons leurs histoires d'entrepreneurs et nous donnerons des pistes d'engagement et des idées pour tous ceux qui ont envie d'entreprendre autrement. Je serai accompagnée de Sébastien Nérault, directeur de France Active Centre-Val de Loire et spécialiste de la finance solidaire. Il nous éclairera sur les pistes d'engagement que peuvent prendre nos invités pour pousser encore un petit peu plus leur engagement. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Justine Niorca, fondatrice d'Incaout Productions. Justine, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter ?
J'ai 28 ans, j'ai créé Incaout Productions il y a maintenant 3 ans, en 2019. Et donc moi j'ai un parcours plutôt culturel et artistique. Je fais des études d'histoire des arts et je suis partie étudier en Angleterre où j'ai fait histoire des arts et cinéma. Et de retour en France, je me suis confrontée à un problème un peu personnel. Je suis en fauteuil roulant et j'ai voulu faire le tour des châteaux de la Loire et je suis très souvent restée coincée au rez-de-chaussée. Et donc du coup, avec mes compétences, mon expérience, mes études, j'ai voulu apporter une solution, ou du moins une alternative de visite aux monuments culturels qui, de nombreuses fois, sont malheureusement inaccessibles. Et donc j'ai créé Incaout. Concrètement, on réalise des visites virtuelles en 360 degrés et compatibles avec de la réalité virtuelle. Le but est de refotographier donc, l'intérieur et l'extérieur de tous les monuments culturels, donc musées ou châteaux plus particulièrement, et pour que le visiteur puisse se déplacer dans tout le monument et vraiment profiter de tous les espaces. Et nous, on se concentre plus particulièrement sur le contenu de médiation culturelle qui est mis à disposition en mettant en avant une sélection d'œuvres d'art sur lesquelles on travaille. Donc on a accès aux cartels. Donc les cartels, ce sont les petits textes dans les musées qui sont accompagnés des œuvres d'art, des tableaux. Donc on travaille sur ces cartels-là avec les médiateurs des musées. On les rend aussi accessibles donc, à des personnes malvoyantes en les rendant en audio. Donc c'est pas exactement de l'audio description, c'est de la lecture automatique. On fait aussi des textes, on traduit les textes en Falk. C'est du facile à lire et à comprendre pour des personnes avec un retard mental par exemple, handicap mental, ou même des personnes dyslexiques pour lesquelles c'est plus facile du coup de mieux appréhender l'œuvre. On a des sous-titres, de la langue des signes, et on essaie d'implémenter de plus en plus d'options facilitantes pour répondre à différents types de handicaps en une seule visite.
Vous vous organisez comment au sein d'Incaout ? Est-ce que vous avez un spécialiste pour chaque type d'handicap ?
Donc à la base, j'ai créé pour apporter une solution plus à, pour un handicap moteur. Donc la visite virtuelle en soi, c'était me permettre, grâce à la photo, de voir les étages des châteaux. Et malheureusement, je ne suis pas une experte sur tous les autres types de handicap. Par contre, une chose super avec l'humain, c'est qu'on est capable d'apprendre et de bien s'entourer. Et donc ça, que ce soit dans mon métier tous les jours, et je pense beaucoup de métiers, bien s'entourer, c'est vraiment la clé. Donc que ce soit pour les traductions en Falk, par exemple, ou la langue des signes, on a des partenaires. Donc par exemple, pour les traductions cartel Falk, on travaille avec une ESAT qui est basée à Orléans. Et donc ce sont les résidents de ce foyer qui sont atteints de handicap mental qui font la traduction avec leurs aides-soignants.
D'accord, donc en plus vous faites travailler des gens qui sont porteurs de handicap.
Faire autrement, pour moi, serait pas un non-sens, mais un peu une idiotie. il n'y a pas meilleur expert que la personne qui est concernée. Donc forcément, en plus de toute façon pour le falque en particulier, si on veut que le falque soit tamponné falque officiellement, il faut que le texte soit relu à minima par des personnes étant atteintes de handicap mental. Donc à le faire relire, autant leur faire directement traduire, parce qu'au moins on est sûr que le texte est vraiment fait par et pour eux.
Il y a des gens qui sont à calculite, il y a tous les 10, et donc ça veut dire que le système FALC est adapté à tous ces types de difficultés, ou est-ce que justement par type de handicap vous devez encore adapter à l'intérieur?
Alors on essaie de faire les grandes familles de handicap, c'est pas hyper joli de le dire, mais c'est très compliqué de faire pour tout type enfin tous les handicaps en particulier, sachant que enfin par exemple moi ma maladie une autre personne du même âge, du même sexe avec ma maladie n'aura pas les mêmes forcément symptômes et les mêmes besoins du coup. Donc du coup, c'est quasiment impossible je pense d'être parfaitement adapté à tout le monde. Par contre, on essaie de faire dans les grandes lignes, en tout cas en respectant les règles d'accessibilité numérique. Donc on sait par exemple que le FALC est une grande aide pour les personnes dyslexiques pour mieux comprendre, parce que c'est beaucoup plus simplifié, mais je doute pas que ce soit pas la solution optimum.
Quand quelqu'un arrive dans un musée, le musée qui a proposé l'accessibilité, on propose donc des outils de visite, ou est-ce que tout ça se fait depuis chez soi? On se dit, eh bah, tiens, je vais vouloir visiter le Louvre et du coup, j'ai une plateforme sur laquelle je peux aller.
Non, on fournit des tablettes ou tables numériques, enfin plusieurs supports possibles au musée, château avec lequel on travaille. Le but premier pour nous, c'était quand même d'apporter une solution aux personnes qui sont déjà sur place, surtout les châteaux. Enfin, par exemple, moi, Chambord, j'y vais tous les ans. Pour autant, je sais que je peux pas monter. Et j'y retourne tous les étés parce que c'est une sortie familiale, on y va en groupe, on pique-nique, c'est toute la journée. Et j'attends quelques temps, le temps que toute ma famille fasse la visite complète. Donc du coup, je trouvais ça dommage d'avoir une version seulement sur Internet pour les personnes qui ont fait le déplacement, qui peuvent en voir une partie mais pas la totalité, parce que du coup, ces personnes-là restent sans rien. Donc du coup, l'alternative est proposée in situ de manière physique pour compléter une visite qui a été faite partiellement. Et puis aussi, c'est l'occasion pour des personnes valides hein, d'avoir un complément de visite. Parce que, bah, par exemple, le FALC dont on parlait est très, très utile pour des enfants. Donc, c'est aussi une manière pour nous de montrer toutes les adaptations pour des personnes, encore une fois, valides, pour pas encore mettre les personnes avec un handicap à part. Et le but, vraiment, c'est de les inclure. Et donc, c'est un produit pour tous. En étant totalement, ou on essaie, hein, totalement adapté aux personnes avec un handicap. La version en ligne, c'est un deuxième pan, donc pour les personnes qui ne peuvent pas du tout se déplacer. Et c'est pour ça qu'on a développé notre plateforme de streaming en ligne qui hébergera du coup le catalogue de visites virtuelles qu'on a pu réaliser et qu'on continue de réaliser toujours. Et qui, à ce moment-là, c'est sur cette plateforme en ligne qui nous permet d'avoir intégré l'IA avec ce plugin, justement, d'adaptation en temps réel pour les besoins de l'utilisateur.
C'est reçu comment, cette offre-là, au niveau des musées? Parce que, par définition, en tout cas dans ma perception, les musées, on peut se dire que c'est un peu ancré et que ça a un peu du mal à bouger. Ils le reçoivent comment, cette offre-là?
Très bien, en général. C'est un peu une image parfois très fausse. Donc on a l'idée tous du musée un peu poussiéreux, de la culture et de l'accès au musée très élitiste. Surtout les musées à la française. Et je pense que tous les interlocuteurs avec lesquels on travaille sont les premiers à vouloir faire bouger les choses. Ils n'ont pas forcément les clés, ils ne savent pas forcément comment le faire. Mais je pense que non, c'est un secteur qui bouge, qui a en tout cas la volonté de bouger. Et donc le souci de l'accueil d'un public handicapé est un souci réel. Et donc il y a des médiateurs dédiés au public en situation de handicap. Et donc pour eux, c'est vraiment une question de comment recevoir ce public-là.
Et toi, tu avais conscience de ce mouvement de l'entreprise sociale et solidaire, enfin ce mouvement, cet ensemble d'entreprises qui sont engagées, ancrées sur le territoire, qui ont des vraies valeurs au sein de leur entreprise. Tu savais que ça existait et c'était une volonté de faire comme ça, ou en fait, t'as créé encore une fois parce qu'il y avait un besoin, et au fur et à mesure du temps, tu t'es rendu compte qu'en fait, tu faisais partie de ces entreprises engagées.
C'est clairement la deuxième option. C'est, je pense que je suis un peu tombée là. J'ai créé parce que j'avais un besoin. Après, c'était une évidence de faire comme ça. Parce que nos valeurs sont l'accessibilité universelle, l'inclusion, même si c'est un terme que j'essaie d'utiliser un petit peu de moins en moins avec parcimonie. Mais du coup, c'était un non-sens d'avoir une offre comme la nôtre et en interne de pas faire aussi de faire autre chose. Donc c'est vrai qu'on est tombé sous cette appellation parce que c'était comme ça qu'on voyait les choses, mais j'ai pas fait les choses de telle manière pour qu'on rentre sous l'étiquette.
Et finalement, la vraie façon d'être une entreprise engagée, c'est de l'être par nature, en fait. C'est pas de le faire pour rentrer dans un mouvement, à mon sens. Et d'ailleurs, on va poser la question à Sébastien Néraud, puisqu'on a la chance de l'avoir aujourd'hui avec nous. Sébastien, bonjour.
Bonjour Géraldine.
Donc Sébastien, tu es spécialisé dans la finance solidaire. Tu travailles chez France Active Centre-Val de Loire, qui accompagne les entrepreneurs dans leur engagement. Donc l'engagement, pour rappel, ça peut passer par plusieurs choses. Ça peut passer par la gouvernance, par le territoire, par l'utilité sociale, l'emploi ou l'environnement. Ce sont 5 piliers qui permettent de mesurer l'engagement d'une entreprise. Qu'est-ce que tu as pensé des différents piliers que représente Incaouts Productions ?
Alors c'est vrai que c'est une façon de le définir chez France Active Centre-Val-de-Loire. Voilà, depuis 4-5 ans, on définit l'engagement par ces 5 piliers. Pour éviter une entrée un peu trop restrictive en fait, sur un des piliers, alors qui ressemble aux piliers de la RSE, hein, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. C'est ceux qu'on a en interne définis dans le mouvement France Active, en regardant des façons de faire, dites justement, on en parlait un peu tout à l'heure, mais de l'économie sociale et solidaire. Ce que j'entends quand même fortement chez Incaout, c'est évidemment le projet social. On voit que le projet de l'entreprise, c'est déjà de rendre accessibles certains monuments aux différents types de handicaps. Donc le pilier en fait projet social, parfois il peut ne pas être au cœur, mais il peut être un peu à côté soit la façon de faire entreprise, soit là on entend quand même que c'est le cœur de l'entreprise même que de rendre accessible. On a entendu aussi la partie emploi. Effectivement, en quelques années déjà, créer 7 emplois, c'est quand même déjà une belle réussite. Le type d'emploi. On pourrait t'interroger, Justine, sur justement, est-ce que dans ton équipe, il y a eu une appréhension particulière sur les compétences que tu as été chercher ? Tu as dit tout à l'heure qu'ils étaient jeunes, à la fois jeunes dans l'âge, j'ai cru comprendre, et jeunes dans les fonctions. Mais est-ce que dans les profils aussi, quel profil tu as voulu aller chercher et comment tu t'es entouré dans son équipe ?
Du coup, sur les 7 personnes, on est 4 salariés et 3 apprentis. Et donc, on a eu réellement un vrai, on va dire, une vraie candidature pour le poste de commercial, avec une vraie recherche plus assidue parce que c'est un poste un peu pilier dans l'entreprise et surtout que moi, je n'y connais rien. Donc, on a été accompagnés pour ça. Un aspect qui nous tenait à cœur, c'était d'avoir une autre personne avec la reconnaissance travailleur handicapé. Enfin, tant que faire se peut, hein, on voulait favoriser si on avait des candidats des candidats avec la RQTH favorisaient leur emploi. Alors c'est pas pour la reconnaissance qu'il a été pris, mais du coup dans son travail et dans le sens qu'a son poste, pour lui c'est vrai qu'il est la pièce du puzzle vraiment parfaite, parce qu'il comprend pourquoi on fait ce qu'on fait, et il est le meilleur commercial parce qu'il en parle, il en parle très bien. Donc c'était surtout ça, et oui, dans savoir-être, forcément la question du handicap, de l'inclusion, c'était vraiment des thèmes qu'il fallait qu'on puisse retrouver dans nos collaborateurs, parce que forcément c'est des valeurs qui transpirent d'Inkout, donc si elles sont pas portées et si elles se reflètent pas dans l'équipe, ça risque d'être compliqué. Donc on n'a pas de soucis à ce niveau-là.
Donc voilà, c'est souvent sur ce pilier emploi, c'est en effet quelle ouverture je me donne en fait dans le recrutement aussi que je fais, souvent quelle place aux jeunes. Alors il y a des dispositifs, donc parfois on dit ah oui, alors les stagiaires c'est intéressant parce que ça coûte pas très cher, mais en même temps il y a parfois une vraie volonté de dire de laisser la place aux jeunes, à l'apprentissage et puis là à la sensibilité au handicap. Parfois, nous, dans les entrepreneurs qu'on accompagne, on leur dit justement quelle sensibilité, enfin, ou quelle ouverture. Ils disent « Oui, moi, je suis très ouvert », mais justement, ils ne connaissent pas des organismes que vous avez cités, la GFIP ou Cap Emploi, à l'époque. Et donc, l'offre, elle paraît pas forcément sur ces sites-là, alors qu'ils sont aussi ouverts au handicap. Donc là, on entend que vous, ça va plus loin, parce qu'en effet, au vu de l'entreprise, c'est aussi ces profils-là que vous voulez encourager. Après, l'autre pilier du territoire, c'est comment, en effet, quand je crée une entreprise, par certains ont une volonté tout de suite grande, mais c'est comment je m'ancre d'abord sur mon territoire pour ensuite m'élargir, parce que ce que j'apporte est aussi d'abord pour le territoire où je suis implanté, voire un peu plus large si c'est régional. Mais comment ça résonne chez toi sur Inkout?
Nos clients aujourd'hui sont principalement régionaux. Alors, on commence à sortir de la région, mais très tôt, les premières personnes à nous avoir fait confiance, c'était le Château Royal de Blois, qui fait partie de l'association des musées Centre-Val de Loire. Donc c'est cette association qui nous a fait confiance. Et donc on a, avec eux, fait deux contrats donc sur deux ans, 2021 et 2022. Et on a aujourd'hui un peu moins d'une quinzaine de châteaux musées sur la région.
Et par rapport à tes fournisseurs, justement, est-ce que tu vas chercher aussi des fournisseurs qui sont régionaux, ou est-ce que finalement c'est des sujets qui sont tellement compliqués que on trouve pas toutes les compétences dans le coin? Est-ce que c'est important pour toi, ça?
Alors oui, je préfère travailler avec des gens qui sont à côté, c'est plus simple, et surtout que j'aime bien pouvoir voir physiquement les gens avec qui je travaille, vérifier comment ils travaillent aussi, et puis c'est une relation, hein, c'est une vraie relation, donc il faut que le travail soit corresponde à notre vision du travail, mais il faut aussi que humainement le courant passe bien, parce que si on travaille sur... on espère 10 ans ensemble. Si la relation humaine est compliquée, c'est sûr que au travail ça l'est aussi. Donc oui, on essaie de favoriser un travail local. Donc par exemple, l'ESAT avec laquelle on travaille pour le FALC, elle est basée à Orléans. Donc on les a rencontrés parce que justement on a visité l'ESAT. J'avais entendu parler de la traduction FALC par les résidents. Donc du coup on y allait. Et c'est comme ça que ça s'est fait.
Et puis moi je peux pas m'empêcher de me dire que les gens de l'ESAT doivent être ultra fiers d'avoir travaillé à la réalisation de projets culturels, quoi. Enfin,
j'espère, et en tout cas c'est le retour que j'ai de l'aide, enfin de la personne avec qui je suis en contact qui travaille sur les textes avec eux, c'est que c'est un petit peu leur jeu presque d'essayer de retrouver les œuvres dans la liste et les matcher au cartel. Donc c'est un peu un événement, et puis c'est aussi important pour eux de montrer que c'est un domaine sur lequel ils peuvent travailler.
On a beaucoup parlé de la GFIP tout à l'heure, la raison pour laquelle on s'est rencontrés, donc je parlais du concours tout à l'heure, c'est parce que tu as remporté notamment le prix à GFIP. Sébastien, tu peux nous en dire un mot et puis après on demandera à Justine aussi ce qu'elle en a pensé.
Oui, bah c'est un partenariat qu'on a avec l'AGFIP depuis 2 ans sur le concours d'entrepreneuriat par les femmes. En effet, chez France Active, on accompagne aussi puisqu'on a une garantie spécifique dédiée aux personnes ayant une reconnaissance de travailleur handicapé. Donc on est proche de l'AGFIP aussi et puis on accompagne aussi les entreprises adaptées. Donc on citait les ESAT, mais aussi les entreprises adaptées. Et pour montrer aussi qu'il y a quand même pas mal de personnes ayant cette reconnaissance de travailleur handicapé qui se retrouvent demandeurs d'emploi et qui ont du mal à trouver un emploi et que parfois la création d'entreprise peut être une façon à la fois de créer l'emploi dont on a envie, c'est un peu quand même ce qu'on a entendu dans ton parcours et on peut t'entendre là-dessus, mais aussi quand même, même si c'est pas simple, de gérer son handicap dans le temps du fait d'être son propre patron, c'est-à-dire que voilà, mais voilà, c'est aussi une solution et la GFIP avait vraiment envie de mettre en avant ces parcours de femmes qui créent leur entreprise en ayant par exemple cette reconnaissance et donc du coup on a créé ce partenariat depuis 2 ans.
Et donc Justine, justement sur cette partie-là, qu'est-ce que ça représente pour toi le fait d'être ta propre boss? C'est plus simple au quotidien ou est-ce qu'au contraire tu t'es rajouté des charges?
Non, moi clairement c'est beaucoup plus facile. C'est d'ailleurs on n'est peut-être pas parlé dans le pourquoi j'ai créé. Je disais que je suis un peu tombée par hasard dedans et une des choses qui ont fait que justement j'ai dû créer, c'est que je pouvais pas travailler dans le cinéma à Paris. D'Orléans, il n'y a qu'une heure, une heure de train. Je dois arriver une demi-heure, trois quarts d'heure avant pour qu'on veuille bien me monter dans le train, si j'ai réservé 2 jours avant. Il faut que j'attende une demi-heure pour descendre du train. Je ne peux pas prendre le métro à Paris, donc il me faut une heure de taxi. Enfin, c'était juste pas imaginable de passer 3 heures dans le matin et 3 heures le soir et de dépenser mon argent dans des taxis. Mais je veux dire que c'était réellement compliqué parce que même un travail de vendeuse, la boutique la plupart du temps est inaccessible et les boutiques dans lesquelles j'arrivais à rentrer, il n'y avait pas de toilettes, par exemple. Donc c'est des questions très bêtes. Je parle même pas d'adapter un poste de travail, vraiment, c'était juste physiquement rentrer dans le bureau ou alors pouvoir au moins une fois par jour aller aux toilettes. C'était donc c'est des exemples très concrets, hein, mais je veux dire c'est pas du tout simple et je pense réellement que la création de son emploi permet au moins ce luxe-là, c'est que je gère mon temps. Si j'ai des rendez-vous médicaux, j'ai du kiné 3 fois par semaine, par exemple, c'est pas un souci. Mmh. Mon patron est plutôt gentil avec moi, donc je calme mes rendez-vous.
J'espère.
Donc au moins, j'ai cette liberté-là. Alors après, bien sûr, comme disait Sébastien, ça veut dire après qu'il faut arriver à gérer son entreprise, mais comme tout entrepreneur, handicap ou non, hein, je veux dire, il faut avoir l'idée et le marché, que ça marche et s'accrocher. Mais ça, c'est tout entrepreneur confondu. Mais au moins, pour la question de handicap, créer mon emploi, c'était la solution la plus simple. Et des fois, ça me fait un peu rire de me dire qu'on essaie de rendre la culture accessible dans des monuments, des châteaux médiévaux.
C'est ça.
Donc c'est assez rigolo, alors que juste aller acheter le pain ou aller à son travail, c'est déjà compliqué.
C'est ça qui est fou,
compliqué.
En fait.
Donc voilà. Je me dis, des fois, j'en attends beaucoup de musées et de châteaux qui sont classés et historiques, classés monuments historiques et qui ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Alors que des établissements ouverts au public dans la vie de tous les jours sont inadaptés. Donc,
ce que je retrouve aussi dans certaines entreprises adaptées, qui sont plus des entreprises adaptées dédiées au handicap mental, par exemple. Enfin, nous, on partage nos locaux à Tours avec une personne, avec une entreprise qui accueille des autistes, et en fait, des autistes dits Asperger. Et en fait, tout ce qu'elle a mis en place, le fait que ça soit plus feutré, des cabines pour s'isoler, etc., et ben, on est tous contents d'en bénéficier, en fait. Et on le fait pour l'attention de celui qui a besoin, et en fait, tout le monde en profite. Et c'est ça que je trouve vraiment qui devrait nous inspirer. C'est-à-dire, c'est pas juste. Voilà, ça sert à tous en fait. Donc cette attention au plus petit, finalement, il est bénéfique pour tous. Donc si on avait cette optique-là, eh bien, on est tous gagnants en fait, finalement. Et donc c'est ça dans ce que tu dis qui, moi, je trouve vraiment, et souvent en fait, qui fonctionne. C'est-à-dire...
Au début, je parlais que du handicap quand j'ai créé. Parce que c'était vraiment différenciant par rapport à ce qu'il pouvait y avoir. Mais au final, je me suis rendu compte que certains monuments, c'était la question de l'accessibilité au château, par exemple. Pour un château, on m'a fait une réflexion, un châtelain, qui m'a dit « Oui, mais moi, je vois personne en fauteuil roulant. Donc, j'ai jamais personne qui est venu se plaindre. » J'ai dit « Oui, mais forcément, il y a 4 marches pour entrer. » Si on devait se plaindre au château alors qu'on peut même pas aller acheter le pain en bas de chez soi, on ne s'en sort plus, déjà. » Et pour moi, donc, il fallait pas restreindre de toute façon, même si j'avais pas eu ces réflexions-là, c'est que pour moi, restreindre la solution pour en faire une offre seulement dédiée à des publics en situation de handicap, c'est encore une forme d'exclusion. Mmh. C'est un outil médical, par exemple, où c'est très, très excluant. Le but, c'est d'en faire une offre pour tout le monde qui est de base prévue pour tout le monde. Mmh. Et c'est pour ça que j'utilisais aussi beaucoup le terme inclusion parce que tout le monde voit ce que ça veut dire. Mais au final, j'aime de moins en moins parce que inclusion, ça veut dire que de base, le monde ne l'est pas. Alors que pour autant, aller au musée, ça devrait juste vouloir dire aller au musée. Que ce soit en fauteuil, avec une poussette, en étant autiste, enfin... toute personne confondue. Faire un musée aux valeurs inclusives, ça veut dire que c'est un effort, enfin qu'on a dû l'adapter. Alors que si on voyait la société comme étant pour tout le monde, de base, il n'y aurait pas besoin d'inclure personne, parce que ce serait prévu pour tous de base. Mmh. Et sinon, dans la meilleure comparaison que j'ai trouvée par rapport à ce qu'on fait, ou le fait justement de faire une offre pour tous, c'est l'ascenseur. Pour moi, l'ascenseur, sans ascenseur, je ne viens pas au deuxième étage à mon bureau. Pour autant, tout le monde prend l'ascenseur. On est venu par ascenseur. Et le fait que ce ne soit pas que pour moi, mais que tout le monde le prenne, bah, moi, ça ne me fait pas sentir exclu, ça ne me fait pas sentir différent de le prendre. Je suis comme tout le monde et je vous hurle.
Deux dernières questions que tu redoutais tant. Est-ce que tu as un mentor ou quelqu'un qui t'inspire?
La question.
La question, oui.
Alors, j'ai eu la chance de pouvoir y réfléchir un petit peu. J'ai un peu triché, mais désolée, mais je vais faire très cliché du coup. C'est mes parents. Je pense que j'ai toujours... Alors, eux sont salariés, mais ils ont des postes à responsabilité. Donc, du coup, on a toujours énormément travaillé et surtout, je les ai vus travailler et se donner à fond. C'est pas juste travailler pour travailler, c'est vraiment être très impliqué dans leur travail. Donc, c'est des passionnés de ce qu'ils font, ils le font avec plaisir. Et je pense que de pouvoir suivre leur projet comme ça... du début à la fin, ce qu'ils peuvent faire, et comment ils en parlent, et les voir aussi impliqués et aussi passionnés. Moi, ça m'a toujours donné envie d'avoir un métier qui me passionnait autant. Et je pense aussi leur rigueur de travail. Le fait d'être des acharnés au travail, alors c'est pas forcément super top tout le temps. mais en tout cas, de voir qu'ils sont très demandeurs et très... très exigeant avec eux-mêmes. Je pense que moi ça s'est vu. J'étais très très scolaire, donc au final très scolaire et cependant ma personnalité me sert bien aujourd'hui pour l'entreprise parce qu'il faut quand même avoir une certaine rigueur, une organisation même que ce soit pour le travail, gérer les emplois du temps, mais aussi les salariés, le management. Il faut savoir aussi délégué, mais enfin tout supervisé en même temps. Donc cette rigueur-là m'a énormément servi et je mentionnerai quand même un autre mentor qui est une super amie à moi, où on a créé en même temps. Donc Maïwenn, qui avait sa start-up aussi au labo en même temps, et donc un peu plus âgée que moi, donc je l'ai toujours un peu regardée je la mets toujours sur un piédestal. Et c'est vrai que de l'avoir, avoir ses hauts et ses bas, c'est un peu c'est inévitable dans le monde de pas forcément de la start-up, mais de la création d'entreprise. Un jour tout va bien, le lendemain c'est la fin, et puis deux jours après ça repart. Et de la voir tenir bon et s'acharner, et toujours créativement, positivement, et tout ça, ça m'a donné envie d'avoir plus de challenges. Et je pense que le monde de l'innovation, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que je suis tombée dedans ou est-ce que j'ai toujours voulu entreprendre, c'est plus elle qui me l'a donné, me dire de faire plus. Parce que oui, ça fait toujours peur, mais c'est tellement excitant de partir dans grand 8 et te dire si je rate, je rate, mais au moins je rate en beauté, et si je réussis, au moins c'est génial.
Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, on m'a toujours parlé des montagnes russes.
Ouais.
En fait, là, tu viens de me dire se lancer dans le grand 8. Et en fait, je crois que c'est toi qui as raison. C'est plutôt ça. T'as vraiment l'attente, tout est dans les starting blocks, là, avec ton bouclier. Et tu dis, il peut rien m'arriver. Mais pour autant, t'as la trouille et tu montes, tu descends, t'as peur, tu cries. Enfin, bon, voilà, effectivement, je crois que je vais changer mon amour pour les montagnes russes pour décrire l'entrepreneuriat en super 8. Je crois que c'est toi qui as raison.
Ouais, mais on en parle du coup avec Bastien, parce que, en plus, comme du coup, c'est mon mari, à la maison, on parle boulot. Et c'est une question, c'est si demain, une caoutche. N'existe plus ou j'en fais plus partie, qu'est-ce que je fais? Et c'est la question, c'est que je pense que je pourrais pas ne pas repartir dans une nouvelle aventure.
Oui, je pense que c'est très difficile de passer de l'entrepreneuriat au... Enfin, ça peut arriver, hein, mais...
Oui, ou alors il me faudrait un poste comme mes parents, avec où je suis salarié,
oui.
Mais que j'ai beaucoup de responsabilités et que je gère un projet du début à la fin. Et je pense que entre ma rigueur et le fait que j'aime bien contrôler aussi, et mon goût pour le Super 8,
ouais.
c'est difficile de voir comment je pourrais faire autrement.
Merci beaucoup. Et donc, ma petite dernière question, qui aimerais-tu entendre dans un prochain podcast? Ah, t'avais pas réfléchi à celle-là.
Non,
pourtant, je te les ai données toutes les deux.
Ouais, c'est vrai. Je pense une collègue à moi qui était justement au concours France Active, Myriam Rambert de Rampilit.
Oui.
Parce que justement, je parlais de Colibri au niveau des valeurs sociales, mais je n'ai même pas parlé de Rampilit, alors que on a pareil fait partie d'un autre programme d'accélérateur Saxo 45 au labo ensemble. On a fait le concours ensemble, enfin, on évolue côte à côte. Et clairement, je pense que Myriam ou Coralie, son associée, ce serait super intéressant. Et elle aura certainement de bien meilleures réponses que les miennes concernant l'écologie.
Oui, mais peut-être pas sur l'innovation, on ne sait pas.
Ah si, aussi.
Attends, on va trouver. On peut pas être parfait sur tous les points. C'est pas possible. Même Rampilit, je suis sûre, doit avoir des choses où ils sont, un petit peu moins performants. De toute façon, on a la chance d'avoir Sébastien qui est là pour aussi poser des questions sur et se poser la question, parce que je le rappelle, Sébastien est parmi nous aussi pour essayer de voir l'engagement à un stade un petit peu plus poussé, c'est-à-dire comment demain on peut s'engager un petit peu plus. Il est certainement pas là pour embêter nos invités, mais c'est
je trouve que, et je finirai là-dessus moi, mais c'est typique aussi de si on a une approche parfois l'approche écologique, il y a une certaine pression globale de la société parce qu'il faut aller vite là-dessus, on n'a plus le temps, c'est vrai, mais en même temps dans tes réponses on l'a dit, parfois l'écologie je sais pas trop par quelle boule prendre quoi. Mais c'est pour ça qu'on a cette approche nous à 360 en disant d'accord, l'écologie c'est parfois difficile, mais si déjà on fait aussi des choses sur le social, sur le territoire, sous la gouvernance, et que l'écologie on sait moins, au moins faisons le reste déjà ce qu'on sait faire quoi, et que l'approche purement écologique pure, eh bien parfois dans l'économie sociale et solidaire ou ailleurs, eh bien c'est une porte d'entrée qui fait peur. D'où nous cette approche beaucoup plus intégrale qu'on a en disant bah, il va falloir y passer, il faut y passer, c'est sûr, mais c'est pas toujours la porte d'entrée la plus facile à appréhender. Donc passons dans des choses qui permettront de l'avoir comme un pilier parmi les cinq, parce que si on est plus à l'aise sur l'un ou l'autre, on va commencer là où on est à l'aise. Et en chef d'entreprise, c'est quand même plus facile d'aller là où, bah, où déjà je me sens plus à l'aise, quoi. Donc nous, d'où cette vision qu'on a, et moi ça me... Merci de cette réponse, que ça nous conforte, qu'on a peut-être raison de ne pas tout miser sur l'écologie et de rentrer par ces cinq piliers dont l'écologie fait partie. Mais ce n'est pas l'entrée unique, parce que ça peut faire peur quand même. Donc, merci de cette réponse, ça nous conforte dans ça.
En tout cas, merci beaucoup Justine, c'était passionnant. On espère que demain, d'autres personnes s'engageront autant dans l'accessibilité que tu peux le faire sur le domaine de la culture. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été parmi nous aujourd'hui.
Un grand merci à Yann d'Adar Studio pour le mix et la musique. Je vous dis à très bientôt et vous remercie pour votre écoute.